propose.
C'est proposé par Bruno, merci.
Merci.
C'est Yves, merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut rajouter un point dans les affaires municipales?
Oui, tu peux ajouter dans affaires municipales, dans le point 14.
Ouverture des centres de bateaux.
Comment tu dis ouverture des?
Des centres de bateaux.
Les rampes de mise à l'eau, OK.
Oui, rampes de mise à l'eau.
Tu peux les ouvrir, hein? C'est...
Ben, okay. Regarde, on peut en parler. Bon.
On en parlera tantôt.
C'est bon.
Tu n'écoutes pas mon émission, c'est KVM, tu le saurais. Bon, on va passer à...
Je veux juste conseil constant.
Oui, c'est exactement, c'est un bon point. Alors, vous avez, la séance étant ouverte et l'ordre du jour étant adopté, je vous demande si vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars dernier. Est-ce que le procès-verbal était conforme à nos discussions? Je recevrai une proposition pour l'adoption du procès-verbal.
Je propose.
C'est proposé par?
Marco.
Luc? Marco?
Maurice.
Merci Marco, c'est appuyé de Maurice. Merci. Juste peut-être que vous voyez dans le haut de votre écran, l'enregistrement a démarré. Et en participant à la réunion, vous consentez à être inclus dans son enregistrement. Alors, voilà. Soyez-en prévenus.
C'est là qu'on commence à parler tout bas?
C'est ça, Luc, c'est ça. Tu peux chuchoter. Je passerai le mot de la préfète parce que je pense qu'on a beaucoup fait état, là, mais moi, je le dis puis je le répète régulièrement sur les ondes. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup de toute votre implication. C'est une situation qu'on a, en tout cas, j'espère qu'on ne la revivra jamais, mais actuellement, l'équipe qu'on forme ici dans la MRC, le personnel de la MRC, tout autant que les élus municipaux, ils se font un travail là, juste génial. Alors, merci tout le monde. Et on va passer à la période de questions de l'assistance. On doit mettre le point à l'ordre du jour parce que c'est un point de réglementation, mais quand on fait le compte-rendu, on dit que le décret du gouvernement nous impose de faire les réunions à huis clos et qu'il n'y a pas de questions. Point 6, suivi des grandes priorités 2020 de la MRC pour le 6.1 Onimiki, simplement vous dire qu'on a réactivé le dossier. Bien entendu, les consultations publiques actuellement sont pas du tout valorisées et permises. Toutefois, d'autres démarches peuvent être faites et c'est ce qu'on fait. On a recommencé la semaine dernière à travailler le dossier Onimiki et Luc Lalonde s'était donné la peine de me contacter pour dire... Le premier ministre va rechercher, au sortir de la COVID-19, il va rechercher des projets dans les milieux pour faire fonctionner les entreprises, faire fonctionner l'économie. Onimiki, c'est un projet comme ça, on a besoin de ça. Alors, on a recommencé notre travail là-dessus. Il y avait aussi un article dans l'actualité sur l'électrification des transports et l'impact que ça aurait sur l'approvisionnement en hydroélectricité. Et en électricité tout court. Alors, je pense qu'il y a un momentum en ce moment sur lequel on doit miser pour le projet Onimiki. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas la consultation citoyenne, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas aux citoyens, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas le projet en fonction de ce qu'on entendra de la part de nos citoyens, mais on va peut-être agir autrement pour pouvoir tenir la consultation qu'on voulait faire. Et on est en train d'en discuter avec TACT Conseil qui nous accompagne dans la démarche.
Claire, si tu me permets.
Vas-y, Luc.
Parce que les deux paliers du gouvernement vont chercher des plans d'infrastructure de toutes les sortes pour pouvoir relancer l'économie à la grandeur du pays. Sauf qu'on n'a pas rien qu'au Nimiki, là. On a l'incinérateur, tous ces plans, tous ces dossiers-là qu'on a en attente depuis un nombre d'années, là, ça serait le temps de les réactiver puis mettre de la pression parce qu'il va... Là, il va falloir qu'ils relancent l'économie. Juste comme c'est là présentement, là, ils viennent de perdre d'à peu près 10 à 11 % de l'économie normale en 3 mois, dans le PIB. Là. Fait qu'ils vont courir après les projets, là. Fait que tous ces vieux dossiers-là, ben, pas si vieux dossier que ça, là, l'incinérateur, ben, ça fait assez longtemps qu'on en parle, qu'on pense qu'il est vieux. André, il avait 50 ans dans le temps. Fait que,
après à toi, il m'a parlé.
Oui, okay, c'est beau. André c'est va prendre la parole après.
C'est beau, là, c'est fini.
Merci, André. Là, tu peux parler. La revanche est André.
C'est sûr que pendant la pandémie, on nous a parlé d'acheter local, de produire local. Si avec un incinérateur, ça serait de toute beauté, mais mettre une serre là, de 200 pieds de long là, au bout de là. Et
voilà.
Aïe, on vient de changer. En fait, actuellement, les consultants ne sont pas très disponibles pour retravailler sur des projets, mais c'est effectivement un point important que vous soulevez là, parce qu'il y a la récupération d'énergie qu'on peut faire, puis ce qu'on peut amener de plus, c'est vraiment envisagé. L'incinérateur, ce n'est pas un projet mort. Mais pour Onimiki, on est déjà reparti.
Good. Okay. Mais au niveau des consultants, là, est-ce qu'on a regardé de façon sérieuse pour en trouver?
Bien, on en avait. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'être capable de discuter pour une installation, mais on va élargir le champ. Là, on ne s'est pas attardé à ça, là, maintenant, là. Okay, on va le faire avec un retour à une situation un peu plus normale. On réactive les dossiers et on va intensifier sur des orientations dans certains dossiers. Puis effectivement, la cogénération d'énergie et de chaleur et ce qu'on peut récupérer, c'est dans le contexte actuel. Puis on a vu là, toute la fragilité de, par exemple, de tout ce qui était ressources matières résiduelles. On le voyait avant la COVID, on l'a vu de façon crue au moment des premières annonces de confinement. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à se donner quelques autonomies, quelques poignées, quelques mécanismes d'autonomie pour le territoire.
C'est-tu moi, mais c'est toi, Luc?
Là, c'est André qui parle.
Bon, merci. peut-être qu'au niveau de récupération d'énergie, peut-être qu'on avait un promoteur, nous autres, là, Pugerville, là, qu'il serait super intéressé à s'implanter là.
Là, André, là, comme je te dis, quand les activités vont reprendre, on va se mettre en mode chercher les promoteurs et travailler vraiment. Pour le moment, on n'a pas mis d'emphase sur ce projet-là. Luc, tu voulais intervenir?
Bien, c'est clair, un projet qu'on nous minique, on parle d'un projet de 200 millions. Là. Puis qu'est-ce que le gouvernement va vouloir avoir de besoin? Là? C'est des projets majeurs pour pouvoir remplir ces caisses le plus tôt possible. Parce que discuter avec n'importe quel entrepreneur, un projet de 200 millions, là, il en rentre au moins 30% des coffres du gouvernement. Là. C'est ça qui presse pour eux autres, c'est de renflouer les coffres. C'est pour ça que ces projets-là vont être très intéressants pour les deux.
Bon argument à retenir. Merci.
Oui, Claire?
Oui.
Oui, moi, je voudrais aussi, il y a un Amiki, il y a l'incinérateur, c'est des beaux projets, mais aussi, il va falloir penser peut-être à un abattoir régional ou à une place pour vraiment qu'on puisse produire notre propre viande, puis vraiment distribuer notre propre viande sur notre territoire.
Moi là, je suis désolé, excuse-moi Claire, je suis désolé, moi là, j'ai vu ça, un abattoir dans ma municipalité. Ouais. J'ai vu tous les appuis qu'il y avait au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue là-dessus. Il n'y a plus d'animaux au Témiscamingue, même pas pour faire fonctionner un petit encan comme New Discord. Je pense qu'à Rouen, là, comme c'est là, ils ont quelque chose de beau, puis je pense qu'il faudrait rester à ça.
Là, sur la question de l'abattoir, il y a une discussion qui se passe en ce moment entre la députation provinciale et la députation fédérale et avec la députation ontarienne. C'est vraiment les députés qui ont pris le leadership du dossier. Toutefois, il y a des personnes par exemple, le directeur régional au niveau du MAPAC qui a été interpellé. Il y a des producteurs qui ont été interpellés. Sur la question de l'abattoir, il y a une étude qui est à être réalisée en ce moment. c'est financé par le gouvernement fédéral par le biais d'une enveloppe d'un député. Et avant de remettre des billes là-dedans, on va regarder qu'est-ce que ça donne vraiment comme lecture en ce moment, parce qu'il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs options. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça se fasse ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue. Il y en a qui voient que Belle-Vallée pourrait être un service qui ferait bien qui ferait un bon tremplin entre deux provinces pour les marchés qui sont les nôtres. Je pense qu'il nous manque beaucoup d'informations et dans un contexte de réunion comme celle-ci, je propose qu'on retienne nos discussions sur l'abattoir quand on sera en présentiel pour pouvoir vraiment avoir une discussion où on pourra échanger vraiment facilement sur le dossier, mais surtout en ayant en main des informations très récentes et très, très factuelles qui nous manquent actuellement. Puis, je rappelle que les agriculteurs demandent beaucoup un abattoir, mais quand tu creuses le besoin, c'est aussi un service de commercialisation dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'on est en train, c'est ce que c'est Gilbert Lavoie, la même firme que nous, on a retenue pour le PDZA, il travaille, il fait l'analyse sur l'abattoir et j'ai dirigé le député qui finançait, là, c'est Sébastien Lemire, je l'ai dirigé vers Maurice Doyon, un professeur de l'Université Laval à la Faculté d'agronomie qui est un spécialiste des services, de ce genre de ces services-là à la collectivité. Alors, moi, je propose qu'on refasse la discussion quand on aura un peu plus d'éléments récents, factuels à se mettre sous la dent. Est-ce que vous êtes d'accord?
Pas trop.
Oui, je suis d'accord, Claire. Mais pour faire marcher un abattoir, ça prend des animaux. Et puis
c'est vrai. C'est bon. Alors, on va retenir le commentaire aussi. Carmen? Ton micro, Carmen. Non, il ne marche pas. Non. Là, Carmen, on ne voit plus ta caméra non plus. Là, on te voit. Non, ça ne marche pas. Coudon, il est où le micro?
Oh boy.
Non, on ne t'entend pas, Carmen.
Je pense qu'elle a bu trop de champagne pour sa fête.
elle nous entend très bien, Yves, en tout cas. Là, tu as renversé ta caméra de bord, on voyait ta nappe. Non. Ben, écris-nous-le. Écris-nous-le. Il y a une place où tu peux chatter. On se reparle demain, OK? Parce qu'on va recommencer la discussion de toute façon.
Je pense que c'est bon, Claire.
Oui, tu l'as. Bon? Oui.
OK. Bon, ben, écoute, c'est juste à titre de suggestion parce que moi, j'entends la demande de Vincent, puis j'entends aussi l'argumentaire d'André. Ça ne pourrait pas faire partie d'une réunion de travail comme dans le bon vieux temps on avait là, sur des sujets donnés, t'sais, pour nous donner de l'information si on a une position à prendre dans ce contexte-là. Moi, j'apprécierais qu'on ait un peu plus d'informations.
Tout à fait. Et c'est pour ça que ça a été pensé parce qu'on aura à avoir des discussions sur le dossier agricole. On avait prévu une rencontre, un lac à l'épaule, le 2 mai, qu'on devra annuler. Mais effectivement, c'est le genre de discussion qui va venir en réunion de travail pour qu'on puisse s'ostiner en masse là, avant de venir en réunion publique. Ça, c'est clair, Carmen.
OK, puis, merci.
Il y avait d'autres dossiers agricoles qu'on voulait amener là aussi. Fait que ce sera une bonne opportunité. Alors, on a fait quand même le tour de plusieurs grandes priorités. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur le projet Onimiki? Sinon, je passe au point 6.2. Oui.
La question que je me pose, moi, ces dossiers-là, oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais que ça reprenne, ça, est-ce qu'on a, à la MRC, assez de monde pour venir en bout de tout piloter ces dossiers-là? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aller chercher de l'aide à l'extérieur pour essayer de faire avancer ça le plus rapidement possible?
Actuellement, Daniel, si tu te souviens, on a signé le fonds Région Ruralité, on a signé le volet 1, qui est le phare, ça a été officialisé et on a signé le volet 2, qui est le FDT, qu'on a officialisé. Il reste deux autres volets sur lesquels nous, on voulait mettre de l'emphase. Il y en avait un sur les services de proximité et l'autre sur toute la démarche, ce qu'on appelle la valorisation des territoires. À travers ça, on avait pris des alignements. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se réaliseront pas cette année et pour lesquelles, comme conseil, on réorientera les prévisions qu'on avait faites. Mais actuellement, dire si ça nous prend quelqu'un de plus pour le faire, ce serait embêtant de répondre à la question maintenant. Mais ce n'est pas exclu. Puis on aura peut-être, tu sais, on a prévu un agent tourisme qui n'est plus à l'emploi de la MRC parce que la personne a quitté. Qu'est-ce que ce sera les besoins touristiques dans les prochains 6 mois, 1 an? Il y a tout ça à mettre en place au moment où le retour à la normale va s'amorcer. Alors, dans tout le contexte, je pense qu'il faut réfléchir une étape à la fois. La question que tu poses, elle est tout à fait pertinente, mais on est un peu vite pour y répondre. On n'est pas encore en mesure de répondre à ces questions-là maintenant.
Pour ce qui est de Onimiki, on a l'offre d'un astuillage de toute façon, hein, si on veut.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors, je passe au 6.2, suivi des grandes priorités 2020 de la MRC, connectivité, alors le projet MobileAT et avec Internet haute vitesse. Sur le projet MobileAT, on a reçu une lettre de la municipalité de Kipawa. Je vous l'ai rendue disponible. Mon objectif, c'est de répondre à cette lettre-là. Parce que le projet MobileAT, le projet est établi avant que le projet soit complété. On ne joue pas à l'intérieur du projet. Il a été établi et financé tel quel. Mais on va s'assurer de voir, et j'ai déjà entamé les discussions avec le promoteur du projet, pas le GIRAT, mais Bell, qui est la compagnie avec qui on travaille ce projet-là, pour l'après réalisation du MobileAT pour voir ce qu'on fera face au parce que c'est 90 % des utilisateurs qui allaient être couverts là, dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas 90 % de chaque municipalité, mais 90 % dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ce sera de voir comment on comble ce qui restera de lieux non desservis ou mal desservis. Fait que pour le moment, le projet MobileAT va de l'avant, va bien. Et pour Internet haute vitesse, je pense que c'est là le point important de ce point-là ce soir. Pour Internet haute vitesse, on s'est aperçu avec le confinement, l'augmentation du télétravail, les étudiants qui voulaient retourner, qui voulaient suivre des cours à distance, l'occupation de toutes les... Simon pourra en parler longtemps, avec 7 enfants dans la maison, tout le monde qui veut se brancher en même temps et tout ça. On a vu l'importance d'Internet haute vitesse et du fait que c'est un service qui est devenu essentiel. Alors, moi, vendredi, je participerai à une séance, un comité de travail permanent, un comité des finances, un comité du Parlement sur les finances du Canada. Et on me demande de quelle manière, quand on ressort à l'expérience de la COVID, qu'est-ce qu'on retient le plus? Je pense que je ne peux pas ne pas nommer que Internet haute vitesse, ça doit devenir un service essentiel et que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de législation qui appartient au gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral, par le CRTC, qui doit rendre le service Internet haute vitesse de qualité obligatoire et de le déclarer service essentiel. Alors, ce sera une des interventions que je vais faire vendredi à ce comité-là, à distance. Je ne me déplace pas à Ottawa. Ce sera certainement sur le service, la desserte Internet haute vitesse. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point-là?
Oui. Norm, ici à Kipawa.
Oui.
OK, on va attendre votre discussion avec Bell parce que comme on a toujours dit, on est pas satisfait du tout. Qu'est-ce que tu as juste parlé tantôt que c'est un service essentiel? Aujourd'hui, qu'est-ce qui passe là avec le COVID? Une grosse portion de notre population, il n'y a pas de service téléphone, landline ou service cellulaire, internet ou business. On ne peut pas avoir d'information. Je pense que quand tu parles vendredi, pour que tu parles des choses comme ça, tu ne peux pas juste dire, OK, on va couvrir 95% de notre population. Il faut qu'on couvre toute notre population.
Absolument.
Tout dans Témiscamingue, c'est des petites communautés, puis ça nous prend ça.
Tout à fait.
Puis on va laisser, on ne parle pas trop de notre tête qu'on a envoyée, on va laisser de temps à vous autres de parler avec Belle ou quoi que ce soit, mais pour la municipalité de Québec, on n'accepte pas ça du tout, puis on va laisser vous autres faire votre travail. Merci.
Merci. Puis, de toute façon, ce qu'on est en train de préparer, c'est une discussion. Ça va être vraiment, M. Gosselin s'apprête à venir sur le territoire, là. C'est un petit peu la discussion qu'on avait. Fait qu'on va, se mettre plutôt en mode comment on complète ce qui est déjà fait, là. Puis, c'est ça la discussion qui a entamé. Fait que, encore là, c'est difficile actuellement de se déplacer. Mais c'est on va impliquer les municipalités qui pourraient constater c'est clair qu'on peut trouver un petit peu des poches non desservies au moment où le projet sera complété. Fait qu'on va s'assurer que là où il y a des enjeux, les gens soient impliqués dans les solutions qu'on va discuter. Alors, mais pour le moment, la seule chose qui a été faite en recevant la lettre, c'est que moi, j'ai fait un contact avec M. Gosselin pour cet élément-là. Puis, le projet Mobilaté, c'est pas un projet qu'on peut changer en cours de route. Le contrat qui a été fait avec le MEI, il est fermé, il est fait. Ce qui a été engagé, c'est pour faire ce qui a été décrit. Fait qu'on, ça, on ne le changera pas, mais on va vraiment s'assurer de la suite des choses après. Ça va pour ça. Alors, 6.3, les grandes priorités, la planif stratégique, je pense qu'il n'y a, pas de développement de ce côté-là, si ce n'est qu'on continue le travail qui avait été entrepris un peu pour la promotion du territoire. Catherine Drolet-Marchand est là-dessus. Et s'il y avait des travaux qui pouvaient se poursuivre par visioconférence, pour entre autres, le guide d'accueil des nouvelles populations, ces travaux-là se poursuivent, mais sinon, il n'y a pas de nouveau sur la planif stratégique, à moins que vous ayez des questions. Donc, 6.4, les grandes priorités, services de proximité, on vous l'a dit, on vous l'a répété, ça va devenir notre grande priorité. Une de nos grandes priorités, mais notre grande priorité. On s'aperçoit de l'importance qu'ils ont. La situation actuelle nous l'a mis en pleine face. Et on ne parle pas seulement des services marchands, on parle aussi des services gouvernementaux et on parle aussi des services essentiels comme Internet et le cellulaire. Alors, évidemment, ça aussi, ça fera l'objet d'une discussion, d'une séance de travail, parce qu'on aura tout intérêt à se donner des orientations sur ces enjeux-là et de quelle manière on va mettre de l'avant des propositions pour vraiment accompagner tous les services de proximité là où on veut qu'il y en ait sur notre territoire. Ça va là-dessus? Alors, enjeux ponctuels, crise de la COVID, les impacts pour les municipalités locales. On a parlé tout à l'heure quand vous avez fait un tour de table, documenter tout ce que ça représente de difficultés. On a parlé de difficultés financières, les pertes de revenus, les dépenses supplémentaires que ça occasionne, mais aussi toutes les difficultés organisationnelles ou de travail que ça a pu présenter. Documentez-le. Euh, C'est pas nécessairement très complexe de documenter des choses, c'est d'avoir les bonnes pièces justificatives, c'est d'avoir le bon courriel. Quelqu'un vous envoie un courriel, fait état d'une situation, d'avoir la bonne information, mais documentez-le. Il y aura des interventions qui vont être faites pour le suivi, probablement des réclamations qui seront faites par les instances municipales. Alors, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment documenter les impacts que ça a dans vos municipalités. Puis peut-être les bons coups aussi, qui pourront être reproduits ou encouragés, mais documenter tous les impacts que ça présente pour vous. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Là, j'ai Carmen. Tu as une question, non?
Non.
Luc?
Moi, j'en ai une.
Vas-y, Luc.
Il y a aussi le côté ministère gouvernemental, son congrès, sont tous arrêtés. Parce qu'on attend des réponses aussi, là.
Oui.
Versus nous autres, un prêt qu'on avait fait, un emprunt pour notre garage. Tout ce qui est notre fonds passe, tout est arrêté, là. On n'est plus capable d'avoir de réponse à personne. Ça, cette partie-là, peut-être juste le signaler que la vie quand même continue dans les ministères et dans les municipalités. Il faut quand même avoir ces genres de réponses-là, parce que là, c'est des emprunts temporaires à faire, ça a des coûts, de l'ouvrage. Ben, juste avoir la réponse d'être accepté ou non, là, c'est pas si dur que ça pour un ministère, là.
En principe, ils devraient répondre à ces questions-là. Ils ont eu la directive assez ferme d'être très rapide sur le service, sur les services aux collectivités. Si tu veux m'envoyer des détails, je vais faire une démarche, Luc, parce qu'ils ont reçu la directive très claire d'être actifs et rapides.
C'est bon.
Puis c'est aussi, s'il te plaît, je vais pouvoir faire une intervention dès demain. Alors, ça va pour ça?
Est-ce que le stress psychologique au maire, ça devrait être...
vous pouvez l'indiquer.
J'ai juste une question pour M. Lalonde. Est-ce que le B sur sa casquette, ça veut dire béant?
Non, c'est pour un bon biscuit.
Ah, là, on va fonctionner. Il nous reste quand même la moitié de l'heure du jour à passer à travers. Alors, point 7.2, enjeu ponctuel, Daniel, sur l'infrastructure aquatique. Je te laisse la parole.
Bon, c'est sûr que le dossier a été retardé un petit peu parce qu'on avait commencé, on avait des rencontres de prévues après le 10 de mars, puis en tout cas au 13, tout a été fermé. Mais on a reparti le dossier. Demain, on a une rencontre avec le comité de gestion. Fait que le dossier va cheminer. Il a été presque arrêté, je vous dirais, là, mais il redébute. Ça fait qu'on devrait, en tout cas, de mois en mois, avoir des informations à vous donner là-dessus. La seule chose pour l'instant.
Merci, Daniel. Donc, il n'y a pas de questions? Enjeu ponctuel, les médias locaux. En fait, il y avait un point de décision, mais on a vu. Je pense que, je ne sais pas si vous avez écouté Radio-Canada dernièrement. J'aimerais juste savoir, ça date de quand, la dernière nouvelle sur le Témiscamingue? Par contre, nos médias ici, que ce soit les journaux, le Reflet, que ce soit les deux télécommunautaires ou la radio, ils se sont avérés extraordinairement précieux. Puis en ce moment, les médias locaux sont dans une situation précaire. Ils sont fragiles. Fragiles parce que la majorité ont perdu leur commanditaire. Les gens ne font plus de business. Fait qu'il n'y a plus de demande pour de la publicité ou de la promotion. Puis, avec l'annulation des grands événements, c'était aussi des pages de publicité et de promotion qui étaient vendues qui ne le seront pas. Puis, on s'aperçoit que si eux autres ne parlent pas de nous, on a peu de moyens de partager de l'information et de parler de nous entre nous. Alors, pour la décision, je ne me souviens plus trop, Lynn, c'était quoi la décision quand on a mis le point à l'heure du jour, mais je pense que on a une orientation, on a un geste concret à poser pour les médias locaux. Lynn, je te demanderais de m'accompagner là, dans ce point-là. On n'avait pas parlé de façon précise, Claire. Tu voulais juste ramener, comme tu l'as énoncé, là, l'importance des médias locaux quand on vit des situations comme on le vit actuellement. S'ils ne seraient pas là, notre population serait-elle aussi informée? Pas certaine. On sait que pendant des crises comme on vit actuellement, la clé, c'est l'information. Les gens ont besoin d'être assurés. Fait que c'est là qu'on voit l'importance de nos médias locaux. Pour les suites, là, ce sera de voir. Là.
Donc, parce que le point était point de décision. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui veut parler, je reviens. Le point était point de décision. En fait, je pense que la décision, c'est vraiment de constater, de faire un constat formel de l'importance de nos médias ici et pour la suite des choses, de réfléchir la manière, de quelle façon nous, comme milieu municipal, on pourra utiliser plus les médias locaux, mais de quelle façon on pourra aussi les accompagner. Je pensais à des moyens faciles, là. On n'est pas obligé de prendre cette décision-là ce soir, mais si on prend de la publicité, si on achète des pages de publicité pour promouvoir des activités sur le territoire, à partir du moment où on peut recommencer à respirer, pas juste par le nez, mais qu'on fasse un double impact, qu'on offre des pages de publicité dans nos médias ou dans des temps d'antenne dans nos médias électroniques, puis en même temps qu'on offre ces temps-là aux petites entreprises qui vont vouloir se relancer, mais qui n'ont pas actuellement, qui n'auront pas eu de revenus et qui n'auront pas les moyens de faire ce geste-là. C'est pas peaufiné, on pourra retravailler la proposition, mais à partir du moment où ces médias-là deviennent, on constate leur importance pour nous dans nos milieux, puis à partir du moment où on sait que les interventions, ils fonctionnent avec la publicité et du soutien local. Alors à partir de là, comment on peut au mieux agir, nous, comme instance, pour accompagner nos médias, puis en même temps avoir de l'impact au niveau de nos entreprises. La question est posée, je pense que c'est peut-être de déclarer l'importance des médias locaux ce soir, ce serait déjà un premier grand geste, puis de chercher les façons les plus profitables sous plusieurs angles pour vraiment soutenir les médias locaux. La période qui s'en vient va être très difficile pour eux. Parce qu'après l'après-COVID, il n'y aura plus les publicités gouvernementales pour les maintenir, pour les soutenir, et il n'y aura pas d'argent pour les petites entreprises pour acheter les antennes, les temps d'antenne ou les pages publicitaires pour nos médias. Il y a un signal à donner, là. Il y a un signal important à livrer à nos médias. Luc, tu voulais prendre la parole?
C'était moi qui a voulu que
la... Daniel, excuse-moi.
Oui. Oui, on a besoin de nos médias locaux, mais si je prends comme le reflet qui est rendu virtuel, ça nous prend des bonnes connexions Internet pour venir en bout de télécharger. Et moi, effectivement, chez nous, avec mon fameux Comtem, là, je te dis que je ne suis pas capable de télécharger grand-chose. Ça fait que... Puis c'est la même affaire avec TV Témis. Il faut aller le voir sur Internet et je ne suis pas capable d'aller on n'a pas. D'où là l'importance de ce qu'on disait tantôt, la fameuse Internet qu'on va être. On a besoin un peu partout dans nos régions. Sinon, on ne sera même pas capable de soutenir. Tu sais, si jamais le reflet décide de rester à la version virtuelle comme ils sont là, je pense que c'est une bonne chose aussi. On est rendu là peut-être, là. Mais on n'est pas capable de le voir. Moi, depuis qu'il est rendu là, je ne suis même pas capable de le télécharger. Puis même les choses à TV Témis, j'ai beaucoup de difficultés parce que ça demande trop de vitesse qu'est-ce que le petit peu qu'on est desservi dans nos municipalités, dans nos campagnes, en fait. Là. Fait qu'il faudra mettre beaucoup d'emphase sur l'Internet pour le suivre encore.
Exact. Tout à fait. Je pense que je ne peux pas ne pas être d'accord avec ça. Pour les médias locaux, donc on avait marqué point de décision, mais c'était plus un point de conviction, je pense, qu'un point de décision. Mais si vous êtes d'accord que la MRC réaffirme la plus grande importance des médias locaux, particulièrement dans une circonstance comme celle-là, ce serait déjà un point très, très, très fort. Ce serait un signal très fort. Est-ce que, Lynn, tu voulais prendre la parole?
Oui, Claire, je me demandais justement, quand tu vas aller à la commission permanente vendredi, si ce n'est pas un aspect qui pourrait être soulevé, là, l'importance des médias locaux pour des communautés rurales comme les nôtres. Là.
Oui. On en fait une déclaration? Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Luc, tu en fais la proposition?
Oui.
Merci.
Oui, d'accord.
C'est appuyé Isabelle. De Isabelle. Merci. J'avais entendu quelqu'un d'autre, mais là, je m'excuse, je n'ai pas vu c'était qui. Isabelle, je t'ai vu.
Mais Claire, ça est une autre affaire qu'on pourrait prendre en note lorsqu'on va faire les revendications municipales pour le gouvernement. Tous nos locaux, nos médias, ils ont une grosse perte, ainsi que les entrepreneurs qui faisaient affaire avec eux autres.
Oui.
Puis indirectement, ça fait contre la municipalité, là, parce que toutes ces publicités-là qui manquent, là, ça peut. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire en publicité lorsque tu dis que personne ne mouve, qu'on veut attirer des gens en région pour les mettre plus capables de si nos médias locaux sautent, comment on va faire pour accueillir le monde? Comment on va faire pour se faire voir à l'extérieur? Fait que ça pourrait rentrer aussi dans les pertes qu'on a municipalement. Là, quand on l'a dit, il faut faire un descriptif.
Il faut faire attention, Luc, de ne pas mêler les choses. Les pertes qu'on documente, c'est les pertes financières et les enjeux structurels auxquels les municipalités sont confrontées dans un objectif de compensation. Par rapport à la COVID. Par contre, pour les médias, c'est un autre type d'enjeu que ça appelle.
Oui, mais la licence, oui, je comprends très bien la licence que tu veux l'amener. Mais comment le formuler pour lui démontrer que oui, il va falloir qu'il y ait une aide aux médias locaux? Je ne sais pas comment on va pouvoir le faire, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que si on en parle juste un ou deux, lorsque tu en as que trois ou quatre, c'est pas mal.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que les médias ont déjà documenté leur situation. Là. Moi, je prends en note la difficulté puis le besoin de faire le lien avec la situation actuelle et la contribution des municipalités. Je ne pense pas que ça servira, par exemple, dans les revendications qu'on pourrait faire pour des compensations, mais il faut l'avoir en tête pour améliorer. Quand on parle de services de proximité, les médias locaux, c'est aussi un service de proximité.
Effectivement.
Alors, ça va pour ça, les médias locaux. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. J'amène le point 8 maintenant. Vous savez que la loi 37 a été adoptée. La loi qui vise c'est le centre d'acquisition gouvernementale et infrastructure, les achats groupés, en fait. Là. On avait déjà fait une résolution à l'effet que ce n'était pas productif dans nos régions, que ça allait à l'encontre de notre autonomie. Dans le contexte où le gouvernement a mis énormément d'emphase sur l'achat local, qu'il fait énormément la promotion de l'achat local, la conférence des préfets a adopté une résolution à l'effet de rappeler au gouvernement qu'il a besoin d'être cohérent dans le discours et dans l'action. Et en conséquence, on lui demande de suspendre la suspension de la loi qui vise à instaurer et instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et d'infrastructures technologiques, voire même de l'abroger. Alors, dans ce sens-là, on vous a mis en copie la copie de la résolution de la conférence des préfets et on vous demande d'adopter la même résolution à l'effet de suspendre l'application de la loi 37, voire même de l'abroger. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un veut proposer la résolution?
Moi, je proposerais.
Tu peux appuyer.
Lynn H. appuie. Qui a dit propose?
Vincent.
Merci, Vincent. Appuyé de Lynn H. Est-ce que quelqu'un est contre? Alors, la résolution est adoptée à l'unanimité. Fonds de développement des territoires. Lynn, est-ce que Véronique est avec nous? C'est toi qui vas faire le suivi?
En principe, Véronique est là.
Véronique, êtes-vous là? Je n'ai pas vu Véronique du tout.
Oui, elle est là.
Ah, bonjour Véronique!
Allô? Alors,
je ne t'ai pas nommée tout à l'heure, je suis désolée. Merci Véronique d'être là. Alors, Fonds de développement des territoires, du comité de gamme pour acceptation des projets au volet 1, je te laisse la parole.
Parfait, merci. Bien, c'est correct, Claire, que tu ne m'as pas saluée. Ça fait 5 minutes que je me suis joint à la conversation.
OK, merci beaucoup. Ouf! Merci!
Donc, juste pour faire une petite mise en contexte, cette présentation-là était prévue au dernier conseil, donc celui du 18 mars. Étant donné la situation, on le fait ce soir. Et je tiens d'entrée de jeu à vous rappeler que le deuxième appel de projet prend fin lundi qui s'en vient, 27 avril, 16h. Donc, on avait envoyé la semaine dernière un sondage pour évaluer si certaines municipalités au BNL voulaient déposer, et c'est le cas. Donc, dès demain, moi, je renverrai à toutes les municipalités et aux OBNL le fait qu'on maintient le cap et qu'on a un deuxième appel de projet qui prend fin lundi. Donc, simplement pour vous mentionner le tout, donc, je vais vous faire la présentation. Dans le fond, c'est des projets qui ont été déposés au 17 février dernier. Et vous avez reçu là, le tableau que je vais vous faire la présentation. Donc, grosso modo, on a reçu 9 projets pour un total de demandes de 275 740, des coûts totaux de projets de 1 039 773. Et ce soir, on vous fait la recommandation pour 8 d'entre eux. Je débute avec la municipalité de Rimini. Donc, le projet est un projet de marina avec 16 quais flottants, on parle de quais permanents, de balises et aussi d'une station de lavage pour embarcations, le tout sur le lac des 15. Des 16 quais, 8 saisonniers, 8 visiteurs avec un système d'accès pour les saisonniers. Donc, le montant demandé est de 30 000 $. Information complémentaire que je vous donne, Desjardins est dans le projet pour 60 000 $ et c'est confirmé, du financement municipal aussi et du financement qui provient d'un programme d'accès au plan d'eau. Donc, un coût total de projet de 155 400 $. Et pour ce qui est des faits saillants qui ont été notés par le comité du GAM, donc beaucoup d'actions de bénévolat qui sont au projet donc, et qui répond à un besoin du milieu et qui est appuyé par les citoyens. Donc, assurer un service aux citoyens aussi, étant donné que le lac des 15 touche à plusieurs municipalités. On parle d'amélioration de la qualité de vie et d'un développement économique plus grand pour la municipalité. Un aspect environnemental avec la station de lavage permanente. Et fait à noter que le fait d'avoir une marina sur ce plan d'eau pourrait éventuellement permettre le relais vers des plans d'eau de l'Abitibi. Donc, la recommandation du comité du GAM, c'est d'y aller avec le 30 000 $ qui est demandé.
Avez-vous des questions, des commentaires sur ce dossier-là particulier? Sinon, Véronique, on continue.
Parfait. Deuxième projet présenté par Belle-Terre. C'est un chemin d'accès à 13 terrains de villégiature au lac Gauvin. On parle de construction de 1,6 km de chemin pour des terres, accès à des terres publiques. Réparation de 3 km de chemin et c'est un tirage au sort qui n'a pas encore eu lieu. Donc, un tirage au sort qui est prévu en novembre 2020. Donc, montant demandé de 30 000 $, c'est 27 % du coût de projet. Un coût projet de 112 022 $. La balance du financement proviendra de la ville au niveau d'un fonds de vitalisation et au niveau du fonds de la MRC, le fonds des baux. Donc, pour les faits saillants au niveau de ce projet-là, on a noté besoin exprimé par la municipalité et les citoyens d'avoir accès à nos terrains de villégiature. C'est un projet qui est porté par la MRC en ce sens que c'est un tirage au sort qui est fait selon les normes du MERN. C'est un projet qui donne accès au territoire et qui permet aussi à des propriétaires, soit qui viennent d'ailleurs de la localité même, d'avoir accès. Et ça favorise l'occupation dynamique du territoire. Donc, vous remarquerez que le prochain projet est semblable aussi et qu'il y a un autre projet plus loin qui est en lien avec la construction de chemins. En ce sens-là, le comité du GAM a choisi de mettre un barème semblables à ces trois projets, étant donné qu'ils touchaient tous la construction d'un chemin, soit d'y aller avec un pourcentage du coût de projet. Donc, la recommandation est faite en ce sens-là. On recommande le soutien du projet, soit 20 % du coût total. Pour ce projet-ci, on parle de 22 404 $ et on demandait de connaître davantage les normes d'établissement qui seront exigées par la municipalité. Pourquoi? C'était dans le but de juste connaître un peu l'occupation optimale et dynamique qui a été réfléchie par la municipalité avec l'établissement de ce projet-là. Donc, on recommande un montant de 22 404.
Question, commentaire sur le projet pour le chemin à Belle-Terre. On continue, Véronique.
Parfait. Donc, projet semblable déposé par la Verlochère-Anglier. Ici, 12 terrains de villégiature pour le lac Robinson. Donc, sensiblement les mêmes termes, 725 mètres de nouveaux chemins, réparation de 650 mètres d'un chemin existant. Toutefois, pour celui-ci, on parle d'un tirage au sort qui a déjà eu lieu en novembre dernier. Donc, les terrains sont attribués. On parle d'une demande de 50 % du coût de projet, 29 795. La balance du financement provient de la municipalité à 2 % et du fonds de la MRC des Baux pour 48 %. On parle d'un projet total de 59 591. On a, dans le fond, les mêmes faits saillants pour ce projet que pour le projet précédent. Donc, je ne vous les relirai pas. Et on a, dans le fond, comme je vous le disais, appliqué le même principe, soit un pourcentage qu'on allouerait. Donc, on recommande 20 % du coût total du projet. Dans celui-ci, ça représente 11 918 avec les mêmes conditions au niveau des normes minimales d'établissement pour favoriser l'occupation dynamique du territoire.
Alors, questions, commentaires sur le sujet?
Bon, mon micro était fermé tout à l'heure. Le projet Belle-Terre, c'est 30 000 $ plus 22 400?
Non, c'est 22 400. La demande, c'était 30 000 $. Le montant, c'est 22 400.
Merci beaucoup.
Dans le fond, c'est que la demande versus la recommandation, elle diffère.
OK, merci.
La municipalité de Belle-Terre a été avisée de cet état de fait-là, Véronique?
Non, dans le fond, tout le monde, tu sais, les gens l'apprennent ce soir avec la présentation, puis dans le fond, avec les tableaux qui avaient déjà été envoyés par contre aux municipalités.
D'accord, merci. Alors, on continue?
Parfait. Je poursuis avec un projet déposé par le comité municipal de Laniel, qui est l'installation d'un puits artésien pour eau potable. C'est l'installation d'un puits et la mise en place d'un abreuvoir pour offrir gratuitement de l'eau potable aux visiteurs du parc de la promenade. Et c'est d'aménager un emplacement avec robinet pour permettre le remplissage de bidons ou de bouteilles réutilisables. Donc, c'est une demande de 20 395. Ça représente 50 % du coût de projet. L'autre 50 % proviendrait du comité municipal. Donc, un coût total de 40 790. Dans le fond, on a noté qu'au cours des dernières années, le comité municipal avait mis beaucoup de projets. Donc, ce projet-là est en continuité avec le développement qui est souhaité et la vision du comité municipal. C'est un projet qui est axé sur la protection de l'environnement parce qu'avec la réduction bouteilles d'eau et tout ça, c'est un projet qui répond à un besoin qui est identifié par les touristes et les visiteurs de la localité. C'est documenté au projet. Veux pas, eux ont un poste d'accueil au niveau d'Opémican, donc c'était une demande d'avoir accès à de l'eau potable. Le seul bémol qu'on a noté au projet, c'est que de fournir de l'eau au public, ça engendre des tests et des normes. Donc, la qualité de l'eau sera vraiment primordiale pour que ce projet-là soit une réussite. Donc, au niveau de la recommandation qui est formulée, on recommande le soutien financier tel que demandé à 20 395. Mais on invite le comité municipal à valider les équipements requis, entre autres au niveau des abreuvoirs, parce que, étant donné que c'est pour de la consommation au grand public, il y a des abreuvoirs et il y a des tests d'eau qui seront nécessaires pour s'assurer de la consommation d'eau, parce qu'on pense, dans le fond, aux normes strictes là, que les municipalités doivent, auxquelles les municipalités doivent répondre avec l'eau, le puits et tout ça. Donc, je vais éteindre ici ma lumière.
Si je peux juste dire quelque chose. C'est Patricia.
Oui, Patricia, attends un petit peu, Véronique va finir, puis ensuite, je te laisserai la parole. Vas-y, Véronique.
Oui, dans le fond, c'est que le comité de gamme était soucieux des normes strictes qui s'appliquent dans chacune des autres municipalités qui sont propriétaires de puits municipaux, donc ils voulaient simplement s'assurer que ces normes-là étaient connues de la part du comité municipal.
Patricia, la parole.
Excuse, dans le fond, peut-être Véronique, c'est parce que... au montage du dossier, les informations n'avaient pas suivi, mais oui, on était au courant des normes et on a mis en place la solution pour faire le suivi puis être aux normes de l'environnement. On le sait qu'il va falloir faire des tests assez régulièrement, puis on va former une personne ou sinon on va faire un partenariat avec la CEPAC qui a déjà quelqu'un de formé. Donc, on est au courant. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, on continue, Véronique.
Oui, donc, un projet présenté par La Tulipe et Gaboury, c'est la construction d'une nouvelle cabane à patinoire, donc une cabane qui inclurait cette fois-ci services d'eau potable et de toilettes qui sont non disponibles dans la cabane actuelle. Il y aurait l'aménagement d'un abri qui serait adjacent pour tenir des classes scolaires extérieures parce que l'emplacement est à proximité de l'école et c'est un bâtiment qui servira en période estivale comme lieu de repos et d'approvisionnement en eau potable pour les cyclistes de l'Est témiscamien. Donc, c'est un projet qui a une demande de 30 000 $ donc qui représente 33 % du coût de projet, Desjardins et l'autre partenaire ainsi que la municipalité. Et là, je sais qu'à votre tableau, vous avez un coût total de 97 000 mais il y avait deux données distinctes au document. Donc, j'ai révisé le tout et c'est plus un projet total de 90 000. Donc, on a noté que c'est un projet qui est axé sur la proximité des services, qui est en appui au projet d'école plein air de la localité, donc qui permettrait la réalisation, entre autres, de classes extérieures. C'est un projet qui est appuyé par la SDT pour le développement du cyclotourisme dans l'Est témiscamien et c'est en lien avec le pôle d'excellence aventure nature du territoire. C'est vraiment un endroit qui est ciblé pour le cyclotourisme. On avait noté au moment de l'analyse une demande financière élevée qui était adressée à Desjardins. Et la demande au moment qu'on a fait l'analyse était en cours, mais j'ai reçu moi un courriel le 30 mars dernier qui nous disait par la municipalité que la demande de 30 000 $ par Desjardins a été acceptée. Donc, et on avait noté aussi que la soumission au dossier provenait d'un entrepreneur de Rouyn-Noranda. Donc, on recommandait le soutien à 30 000 mais on demandait à la municipalité de favoriser l'embauche d'un entrepreneur d'ici pour la réalisation pardon, du projet, donc avec une recommandation à 30 000 $
Alors, est-ce que vous avez des questions? On continue, Véronique.
Je poursuis avec une demande de MOFET pour un projet qui se nomme le Pavillon des 15. C'est l'aménagement d'un sentier pédestre éclairé de près d'un kilomètre avec des aires de repos. Et aussi la construction d'un pavillon de 30 par 40 pieds avec fondation en pavé uni et structure ouverte permettant d'accueillir diverses activités. Donc, la demande est à 30 000 $ c'est 13 % du coût de projet. La balance du financement est assurée par la municipalité à 18 % par le programme de la TEC à 64 % et par Desjardins aussi à 4 % On parle d'un projet de 232 350 $ Donc, on a noté que c'est un projet qui a de nombreux appuis du milieu, donc 5 appuis diversifiés, dont la municipalité voisine de La Force. C'est un projet ambitieux, comptant sur un investissement municipal important. Donc, au total, c'est un 82 % de financement municipal qui est accordé à ce projet-là. On a noté que c'est un projet complémentaire au développement qui est entrepris par la municipalité au cours des dernières années. Toutefois, le projet était présenté de façon très succincte, donc il y avait certains manques de précision et de détails à quelques niveaux. Toutefois, on recommande tout de même le soutien tel que demandé à 30 000 $
Questions, commentaires? On continue.
Projet déposé par le magasin Devlin 2009. Donc, c'est un projet de serre, ça s'appelle Serre de la Force. Donc, construire et exploiter une serre maraîchère de 25 par 30 pieds qui produira des légumes, fruits et fines herbes de façon écologique. Et ce serait l'occasion aussi pour la municipalité d'organiser des événements citoyens autour de l'alimentation et du jardinage. Une demande de 30 000 $ donc qui représente 42 % du coût de projet. La balance vient de la municipalité, un projet total de 71 486 $ On a noté que c'est un projet qui était bien appuyé du milieu, entre autres par la Ville de Belle-Terre et par l'opératrice du marché public de Moffett. C'est un projet qui vient améliorer l'offre alimentaire du magasin et qui est axé sur la proximité des services. C'est en lien aussi avec la diversification de l'agriculture de la municipalité qui est inscrite au PDZA de la MRC. C'est un projet qui est appuyé financièrement par la municipalité. Toutefois, on a noté qu'il y a certaines dépenses qui étaient peut-être jugées à la baisse, donc il y a peut-être des prévisions budgétaires qui seraient à réviser. Et on a noté aussi que pour la suite du projet, ce serait peut-être intéressant que l'organisme vérifie pour l'obtention possible d'un soutien financier qui proviendrait de d'autres sources, par exemple du MAPAC. Donc, on recommande le soutien financier tel que demandé à 30 000.
Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on continue.
Projet présenté par la municipalité de Lorainville, projet Petite Terre. Donc, le projet en tant que tel, c'est de morceler 40 acres d'un lot de la municipalité pour en faire 4 lots distincts de 10 acres chacun pour favoriser l'émergence de micro-entreprises agricoles. Mais l'objet de la demande qui a été adressée au FDT, c'est de construire un chemin d'accès de 340 mètres vers ces lots-là. Ce serait un chemin qui est en zone boisée. Et dans le fond, les terrains seront vendus à des promoteurs agricoles qui voudraient vendre leurs produits et qui devront être en opération dans les 2 ans suivant l'achat du lot. Donc, ça fait référence au projet de construction de chemin dans les 2 derniers qu'on a passé tantôt. Donc, c'est une demande à 50 % du coût de projet à 45 550 et 50 % provient de la municipalité, un coût total de 91 100. Ce projet-là a initialement été déposé au volet 2, ce pourquoi la demande est plus haute que 30 000 qui était la limite au volet 1. Mais c'est le comité du GAM qui recommande de le transférer au volet 1 parce qu'on a jugé que c'est un projet municipal plutôt qu'un projet territorial. Donc, on a noté que c'est un projet innovant qui répond au pôle d'excellence du territoire en agriculture. C'est un projet qui est porté par la MRC via le PDZA. Dans le fond, le développement de ce type de lot était inscrit au PDZA. C'est un projet qui permet de donner accès au territoire et qui favorise l'occupation dynamique. C'est un projet novateur parce qu'il y en a, c'est seulement le deuxième qui pourrait voir le jour au Québec. Et ça représente un levier de développement économique pour le territoire. Donc, le même principe que les deux autres a été appliqué à celui-ci, soit de recommander 20 % du coût total du projet pour la construction de ce chemin-là. Donc, ça représenterait 18 200. C'est la recommandation qu'on a fait.
Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires?
Oui. Simon, j'ai un commentaire.
Vas-y, Simon.
Oui, bien, dans le fond, je trouve... Oui, c'est correct, là, 18 200, mais je trouve ça quand même dommage que ce projet-là soit comparé aux autres projets. Véronique, tu viens de le mentionner, c'est un projet innovateur. Il cadre dans le PDZA. Puis pour le territoire, je pense justement que c'est peut-être justement un premier pas vers l'avant, puis peut-être de débroussailler ce projet-là, puis que d'autres municipalités puissent l'appliquer dans le futur ailleurs. C'est de favoriser l'agriculture à petite échelle. On sait que c'est difficile pour tout le monde pour accéder à un lot agricole pour pouvoir produire sans faire une grande échelle de tout ça. Mais écoutez, on va accepter le montant, mais je voulais quand même mentionner mon commentaire là-dessus.
Merci. Juste un commentaire aussi. Le commentaire pouvait venir aussi de la part de Belle-Terre ou de la Verlochère-Anglier parce qu'eux se retrouvent aussi dans notre schéma d'aménagement. Donc, c'est des possibilités qu'on a dans le schéma d'aménagement. Alors, par rapport au PDZA, il y avait une délicatesse. Cela dit, il y avait une demande de la municipalité de Lorainville. Est-ce qu'on la retient ou est-ce qu'on n'en tient pas compte?
Pour notre part, bien, c'est sûr que si il y aurait possibilité de pouvoir présenter notre projet au comité de GAM, ce serait apprécié. Si vous refusez, ben, on comprendra votre décision. Mais merci. Nous, on aimerait ça pouvoir avoir la chance de le présenter vraiment par la municipalité de Lorainville.
Alors ça reviendra au comité du GAM. Pour ce soir, la recommandation, elle est sur la table. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'aurais un commentaire. Une question, moi, oui.
Vas-y, André.
Je me pose la question à savoir, est-ce que ce projet-là est passé à la CPTAC? D'habitude, la CPTAC, oui, oui. Sont pas faciles, oui, à accepter les projets semblables.
Oui, André, on a fait le processus, André.
Puis, on a été accepté. Justement, on avait une demande de 8 terrains au départ. On a été accepté pour 4 terrains pour commencer. On a fait les rencontres nécessaires. On s'est repris à 2 fois. Puis, on a fait une rencontre avec eux en personne. Puis, écoutez, ils ont accepté le projet pour les 4 terrains. Fait que oui, on a vraiment un bon pas d'avancement de fait là-dedans.
Je trouve que c'est un super nouveau projet parce que ça manque, ça. Il y a bien des gens là, qui voudraient se bâtir une maison, avoir un cheval en arrière de la maison, puis c'est, vous dire, puis faire un petit peu d'agriculture, comme tu dis. Là.
Dans la décision de la CPTAC, si je me souviens, Simon, dans la décision de la CPTAC, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet agricole. C'est la valeur du projet agricole.
Dans le projet, on a des normes d'établissement, ça c'est sûr. Puis en plus, ils doivent produire pour 5 000 minimum de produits agricoles. C'est sûr que juste avoir un cheval à l'arrière de la maison, ça compte pas. Ils doivent vraiment faire de l'agriculture à petite échelle, mais on demande un revenu de 5 000 qui est tout à fait faisable. Alors oui, pas seulement pour un cheval, c'est pas juste pour de la plaisance, mais c'est pour avoir aussi un minimum de production agricole.
Il me reste 300 acres de terre, vendre mon foin, ça va être de la misère à faire 5 000 piastres. Comment ça
va faire? Tu fais pas de légumes, André, parce que tu fais pas de légumes. Fais des cocombes, André.
J'en ai fait 5.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dossier? S'il vous plaît. Il ne nous reste pas beaucoup de choses à voir, mais là, il faudrait... être sérieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les propositions qui sont soumises? Il était question de 9 projets dans la documentation, Véronique, et il y a 8 projets recommandés. Le 9e, est-ce que tu pourrais faire le point sur...
Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est un projet qui a été présenté par la ville de Témiscamingue. C'est le projet s'intitule, dans le fond, le centenaire de la ville, mais c'est le volet programmation qui a été présenté. Donc, des événements qui auront lieu au cours des 4 saisons de l'année 2021. On parle en hiver de tours de calèche, exposition temporaire, sentier glacé. Au printemps, fête de la pêche, course de boîte à savon. À l'été, des soirées de concerts gratuits, une fin de semaine de retrouvailles. À l'automne, parade et tout ça. Donc, la demande était de 30 000, soit 13 % du coût de projet. La balance du financement est faite par Ryanair, entre autres, Desjardins, le Centre FLD et d'autres commanditaires qui sont à venir. C'est un projet qui totalise, là, juste pour le volet programmation, 180 000 $. Il faut savoir que la ville mettra 150 000 $ pour le centenaire, mais qu'au total, on voyait dans le projet que le coût total de l'événement du centenaire est prévu à 333 000 $. Donc, ce qu'on a noté pour vraiment le volet programmation, c'est que c'est une programmation, c'est éphémère, donc les retombées sont difficiles à évaluer. Certaines activités qui sont prévues à la programmation font déjà partie des activités qui sont réalisées par la municipalité annuellement. Et c'est un projet qui est axé sur l'événementiel plutôt que sur le développement. Donc, on a formulé une recommandation négative, étant donné le caractère éphémère de la programmation. On a dit que la MRC serait davantage encline à soutenir un élément durable du centenaire qui aurait une pérennité dans le temps. Donc, ça veut dire que si le comité souhaite soumettre un nouveau projet ou une nouvelle demande, il serait bien que ce soit en ce sens au niveau de la pérennité. Donc, c'était ce projet.
Merci. Si je me souviens, on avait dit qu'on souhaitait que la municipalité sache que s'il y avait des choses permanentes ou plus pérennes, on était tout à fait enclin à le regarder très positivement.
Exactement. Donc, ça conclut les recommandations qu'on faisait. Donc, 8 projets, comme je le rappelle, pour un total de 192 917 $. On a une enveloppe de 400 000 $ pour le volet 1 pour l'année 2020. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption des 8 projets qui ont été présentés et pour lesquels il y a une recommandation du comité du GAM.
Je propose, Alexandre.
Alexandre, merci. C'est appuyé de?
André.
André Paquette, merci beaucoup.
J'aimerais juste glisser un petit mot clair avant la fin.
Oui, attends un petit peu, je vais juste vérifier si quelqu'un est contre la résolution. Ah. Alors, ça va. Vas-y, Véronique. Non, Luc, tu ne peux pas être contre. Vas-y, Véronique.
Merci. Je voulais juste vous informer parce que là, on parle du premier rappel de projet qui a eu lieu pour la vague 2020 du FDT. Mais dernièrement, moi, j'ai eu des nouvelles pour des projets qu'on a soutenus ou acceptés dans l'appel de projet 2019. Et il y a deux projets qui nous ont avisés, deux projets municipaux qui n'utiliseraient pas les sommes qu'on leur avait octroyées. Donc, c'est deux fois 20 000 $ qui reviennent, si on peut dire, dans les coffres du FDT. Et il y a aussi un projet d'un OBNL qui aura un résiduel de plus de 6 500 $ Donc, ça va être des sommes qui vont être de retour suite à l'appel de projet 2019.
Merci beaucoup. D'autres commentaires?
Ben, juste savoir, peut-être, ces sommes-là, est-ce qu'ils sont réinjectés dans les budgets 2020 ou ils sont dans le budget général, en fait, là, de...
Non, ça revient dans le budget du FDT parce que l'entente, c'est pour gérer le fonds et on a adopté une résolution lors de la dernière rencontre à l'effet que le fonds allait être... Il y avait une décision du gouvernement. On avait demandé, nous, à ce que les sommes qui nous restaient, qui n'avaient pas été engagées ou dépensées, restent dans le FDT et le gouvernement a acquiescé à cette demande-là dans les derniers jours du mois de mars. On avait cette résolution-là devant nous. Alors, ça reste dans le FDT. Ça ne reste pas dans le fonds général, autrement dit, ça reste dans le fonds du développement de territoire pour les projets.
OK, oui, mais donc s'il y avait des demandes qui dépassaient, par exemple, 400 000 $ sur le volet 1, il pourrait être, de la façon que ça fonctionne en ce moment, il pourrait être analysé et recommandé quand même, c'est ça?
Oui.
OK.
En fait, ces sommes-là viennent s'ajouter aux sommes dont on dispose. Puis, on prévoit les sommes cette année. On l'a vu dans d'autres fonds, notamment le phare. On peut anticiper un projet sur plusieurs années et que ce soit le budget de l'année suivante qui contribue à financer en partie un projet. C'est des règles de fonctionnement de projet. Les normes qu'on se donne, nous, on se fait fort de les respecter, mais l'argent, elle n'est pas perdue, elle reste dans notre fonds développement de territoire. Et l'argent peut être, les dépenses peuvent être étalées sur plusieurs années financières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on passe.